Dutrisac.
Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
Caroline Proulx est avec nous, ministre du Tourisme, députée de Berthier pour la Coalition Avenir Québec. On reste toujours sur le sujet.
Oui.
Madame Proulx. Mais... Toujours sur le sujet.
C'est un plaisir de vous retrouver, monsieur Dutrisac.
comment était. On n'est pas sur le sujet, Madame Proulx, mais comment ça a été la transition de médias politiques? Parce que là, vous avez une couple de collègues là, qui ont fait la même démarche. Comment vous avez vécu ça, vous?
En fait, je vous dirais que c'est beaucoup des cousins germains lorsque tu es élu député ou encore nommé ministre.
Ouais.
Ça ressemble beaucoup à ce que je faisais dans les médias, c'est-à-dire que la lorgnette est juste inversée. On est dans un job de communication quand t'es ministre, quand t'es député, ton job principal,
c'est
de bien...
décision, là.
Ouais, c'est une job de décision quand t'es ministre, mais c'est également quand tu prends des décisions, il faut que tu sois en mesure de bien les expliquer à ceux qui sont concernés par les décisions, les projets de loi, les règlements que tu décides de mettre de l'avant. Donc c'est d'abord et avant tout une job de communication. Maintenant, quand t'es nommé ministre, tu saignes du nez un peu pendant 2-3 mois.
Parce que
ah, c'est violent, là. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Je m'attendais pas à être nommé ministre au premier mandat.
Ouais.
Tant et si bien que j'ai trouvé ça extrêmement dur. C'est beaucoup d'apprentissage. Et ce qui est formidable avec le deuxième mandat que va faire le premier ministre, c'est que 21 des 26 ministres de la première cohorte de 2018 gardons exactement les mêmes responsabilités. Fait que tu peux continuer. Tu sais,
là, vous êtes rodé, là.
Oui, ben,
c'est
ça.
Vous êtes rodé, puis vous connaissez vos dossiers.
Exact.
C'est ce qui est une bonne affaire. Parce qu'à toujours recommencer, au transport, je veux dire, c'est à recommencer. Tu dis c'est majeur comme ministère. Là, on peut-tu avoir un peu de continuité pour savoir où on s'en va?
Ouais, non, obstant ça, il y a quand même 4 ans que M. Bonnardel a piloté le dossier, vaste dossier des transports.
On n'embarquera pas là-dedans.
Non, okay? Mais 4 ans, c'est quand
vous
même
m'avez
un
dit
mandat...
de rester dans le sujet, oui. Je reste dans le sujet.
D'accord.
Quand M. Bonnardel viendra, si jamais, on fera ça avec lui. Là, d'abord, on va commencer avec une bonne nouvelle.
Oui.
Montréal va... C'est drôle parce que c'est difficile de ce rapport-là, vous et moi...
Expliquez-le pour pas laisser d'ambiguïté.
Non, mais on a pas été en couple, là, mais on s'est croisés à quelques reprises avec des amis, à certaines tables de restaurants. Puis là, on était comme du même côté de la clôture.
On est encore du même côté de la clôture.
Je pense pas, non.
Ben, dans l'esprit où on a besoin de communiquer. À l'époque, on reste dans l'esprit de communication.
Bon, OK, c'est le mot-clé aujourd'hui.
Exact, le mot du jour.
Montréal va recevoir la Coupe du Président. C'est du golf, là, en 2024.
Ouais.
Là, c'est confirmé.
Oui, on avait la conférence de presse ce matin avec Mike Weir, qui est un grand golfeur canadien, qui devient donc à la tête le capitaine de l'équipe de la Coupe des Présidents qui va se tenir ici à Montréal en 2024. Et où l'objectif, en tout cas moi, mon ministère, c'est de continuer d'accompagner ces grands événements sportifs internationaux-là, où on a une visibilité à travers le monde qui est extraordinaire. Quand un télédiffuseur comme NBC, par exemple, aux États-Unis, qui sont très friands du golf, idem au Canada et beaucoup du côté de l'Europe, on parle d'à peu près au-dessus d'1 milliard de téléspectateurs qui vont se brancher durant la Coupe des Présidents, puis 74 millions en retombées économiques de tous ces joueurs, leurs familles, leurs caddies, les journalistes.
C'est une infopub pour le tourisme.
Ah, c'est extraordinaire. C'est une visibilité extraordinaire pour le Québec et pour Montréal. Et le ministère du Tourisme a injecté 6,5 millions de dollars là-dedans. 5 millions de touristes, puis 1,5 million du côté de la métropole. Monsieur Fitzgibbon qui en est responsable.
C'est vrai que Montréal était en compétition avec Tokyo puis même la Chine pour ce tournoi.
Il y a partout à travers le monde, on souhaite avoir ce type d'événement sportif là. Montréal a gagné donc la mise au jeu pour accueillir la Coupe des présidents qui alterne. C'est aux 2 ans la Coupe des présidents. La dernière qui a été tenue à Montréal, c'était en 2007, sauf erreur, ou 2009, 2007 ou 2009, Brigitte, 2007.
Merci Brigitte.
C'est
ce qu'on n'avait pas quand on était du même côté de la clôture.
On n'avait pas d'attaché de presse.
Avant Brigitte qui dit, dites pas des des niaiseries, là, Mme la ministre. Oui. Voici, c'est 2007, donc.
Oui, je me promène avec un filet de sûreté, maintenant.
Ah non, non, mais c'est une bonne affaire. Oui. En termes de tourisme, Caroline Proulx, là, est-ce qu'on devrait faire plus d'efforts pour attirer ce genre d'événements sportifs? Parce que je me souviens, j'étais pas au Québec, puis je voyais des images du Grand Prix.
Oui.
Que je fréquente pas, ben j'aime pas le Grand Prix, mais je voyais l'image qu'on rendait de Montréal à travers le Grand Prix, c'était spectaculaire. Les expos, c'était pareil. Y a-tu d'autres événements comme ça, là, qu'on cultive?
Ouais, ben le Grand Prix, on a renouvelé une entente avec Formula One Racing pour 3 années additionnelles. Donc Montréal garde le Grand Prix. Là aussi, une énorme visibilité pour Montréal avec le beau logo de Bonjour Québec dans la fameuse épingle.
C'est pas bonjour, aïe?
C'est bonjour Québec.
Ah, OK.
À travers la planète aussi, on a négocié donc des droits où on peut avoir les images de Bonjour Québec à travers le circuit de la Formule 1. Il y a l'ICU.
Tu n'as pas trouvé drôle le bonjour, aïe?
Non, je suis incapable.
Ouais, okay.
Il y a les internationaux de cyclistes qui vont s'amener à Montréal. Oui, l'ICU en 2026, où là aussi on a accompagné les promoteurs.
Ouais.
Les événements sportifs internationaux, où on peut avoir des scènes extraordinaires du Québec et de Montréal, sont des événements sur lesquels on va travailler.
Mais des décisions, là, tu sais, on a perdu les expos, le retour des expos qui était, je sais pas, une fabulation, je sais pas si c'était réel, mais tu sais, le basketball, ces événements sportifs-là, là, ça, inévitablement, qu'on soit pour ou contre, qu'on aime le sport ou pas, ça met une ville sur la map, comme
on
dit.
Prenons juste le repêchage qui a eu lieu à Montréal, de la Ligue nationale de hockey. Ça aussi, ça a des retombées pour Montréal. C'est pas un événement sportif comme tel, mais il est lié à la Ligue nationale de hockey et ça nous permet, le repêchage entre autres, de pouvoir mettre Montréal sur la carte, comme tu le dis, et d'avoir des événements à rayonnement international. C'est une campagne de publicité extraordinaire.
Là, vous revenez de New York.
Oui.
Vous êtes allé leur dire quoi au juste?
Je suis allé leur dire que l'hiver est extraordinaire au Québec. De toute la frontière canadienne avec les États-Unis, c'est le Québec qui enregistre le plus grand nombre de passages automobiles entre le Québec et la côte est américaine et New York.
Est-ce que ça exclut le chemin Roxham, ça, ou...
Ça l'exclut.
OK, c'est correct.
Et je pense qu'on a, on peut faire une poussée marketing encore plus fort, plus forte sur la côte est.
Mais c'est quoi votre pitch? Quand vous arrivez à New York, là, vous parlez du Québec, Caroline Proulx, là, c'est quoi votre pitch, là? Comment vous vendez le Québec?
Ben, on a des campagnes publicitaires avec l'Alliance de l'industrie touristique. C'est le mandataire de mon ministère pour faire la publicité du Québec à l'international. On a acheté des pubs sur Times Square, des dernières campagnes promotionnelles vantant l'expérience tant gastronomique, touristique que culturelle. Il y a beaucoup de festivals durant l'hiver au Québec. Donc, c'est des push marketing. Ils rencontrent donc des agents de voyage du côté de New York, par exemple, pour les intéresser donc, à amener des Américains au Québec. C'est 1,5 million Américains qui traversent la frontière entre le Québec, soit par la 91 ou la 87, on a un potentiel énorme. Le dollar américain est très fort, c'est avantageux de venir au Québec, donc on continue de pousser là-dessus.
On reste dans le sujet tourisme. Vous m'avez demandé de le faire, on le fait.
Non,
j'ai pratiqué. Mais sans le fait français, là, on va devenir Buffalo ou Cincinnati avec des festivals.
Et c'est la raison pour laquelle on fait encore beaucoup de tournées aux États-Unis, puis on va en faire d'autres cette année, Benoît, puis de faire en sorte qu'on continue de mettre l'avant le fait français et quelque chose de très séduisant pour les Américains. Ils sont pas inquiets de débarquer à Montréal.
C'est pas un handicap. Là.
Absolument pas. Au contraire, c'est une valeur ajoutée.
Pouvez-vous le dire, Valérie Plante?
C'est une valeur ajoutée de le fait français et toute l'architecture qu'on trouve tant à Montréal que dans le Vieux-Québec qui permet à ces Américains-là d'avoir une espèce de goût d'Europe à un jet de pierre de New York ou
du Maine. Et à 30% de rabais sur le dollar.
Et à 30% de rabais sur le dollar.
Avant qu'on se quitte, on est toujours dans le tourisme. Moi, à un moment donné, j'ai vu que votre gouvernement, Caroline Proulx, a donné de l'argent à Sonder, là, 30 millions, 5 millions pardonnables, là, ça veut dire qu'il n'a pas à être remboursé. Airbnb, là, votre collègue avait de la misère à admettre qu'il y avait une crise du logement. Airbnb, là, c'est nocif, puis il y a plein d'études qui disent la même affaire pour les logements, pour l'accès au logement. L'industrie des hôtels, c'est pas bon non plus. Quand est-ce que vous allez mettre au pas Airbnb?
Ben, ça a été fait depuis longtemps. Je suis déçu que vous n'ayez pas noté les améliorations significatives qui ont été faites à la loi sur l'hébergement. On a revu complètement la loi sur l'hébergement touristique.
À court terme.
On a défini une nouvelle catégorie, Benoît, d'hébergement qui s'appelle la résidence principale. Mmh. Okay? Si vous habitez dans une tour à condo à Montréal, parce qu'on a fait souvent référence à une certaine tour dans le centre-ville de Montréal où il y avait du Airbnb, puis il y avait des gens qui avaient acheté, qui avaient acheté des condos là, c'était très difficile d'y vivre. La réglementation qu'on a adoptée à travers le projet de loi 100, la résidence principale, c'est une nouvelle catégorie, Benoît. Lorsque vous êtes dans une tour à condo, vous devez avoir l'autorisation écrite du syndicat de copropriété pour en faire l'exploitation sur une plateforme d'hébergement courte durée. Vous êtes dans un plex, vous devez avoir l'autorisation du propriétaire du plex pour en faire l'exploitation. Mm-hmm. Jamais ça s'était fait. Donc, on vient vraiment encadrer l'hébergement dit de courte durée. On n'enlève pas sur le marché locatif. Benoît, il s'agit de ta résidence principale. C'est là que tu passes la grande partie de ta vie, c'est dans ta résidence principale.
Ça, c'est si tout le monde est honnête et remplit les formulaires administratifs, ce qui n'est pas le cas.
Les formulaires administratifs ont été complètement revus avec le projet de loi 100 pour justement venir réduire la paperasse et faire en sorte qu'il y ait davantage de conformité.
Mais comment vous expliquez, par exemple, Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, dit c'est une entreprise qui a causé une perte nette de logements traditionnels qui accapare le parc locatif.
Ce que je dis, c'est qu'on est venu encadrer l'hébergement de courte durée. Dans le projet de loi 100, il y a une dimension qui est extrêmement importante. C'est que nous, on a un cadre réglementaire, mais les villes et les municipalités, on leur a donné d'autres pouvoirs pour pouvoir restreindre, limiter ou carrément interdire l'exploitation courte durée. Les municipalités nous ont demandé ça. On leur a donné les pouvoirs. Maintenant, les pouvoirs additionnels qu'une municipalité souhaite mettre en place pour restreindre ou encadrer ou limiter l'hébergement courte durée, c'est eux qui doivent l'appliquer. Et si un exploitant d'hébergement de courte durée est trouvé coupable à deux infractions dans la même année, la ministre, c'est-à-dire moi, je peux lui retirer son numéro d'exploitation et il ne pourra plus exploiter.
Vous en avez retiré combien?
L'application, la loi est tombée en application, sauf erreur, en septembre dernier.
Brigitte.
Il y a une série de règlements. il y a une série additionnelle de règlements là, qui vont être opérationnels là, à partir du printemps prochain. Vous comprenez le principe d'un projet de loi?
Absolument, mais je comprends aussi le principe de l'appliquer, ce qui n'est pas simple. Tu sais, peut-être vos intentions étaient parfaites, mais sur le terrain, ce qu'on entend, c'est qu'il y en a qui s'enregistrent pas, ils n'ont pas de chiffres. Je comprends que si vous les pognez, vous pouvez leur retirer de permis, puis ils ont l'air à s'en sacrer. Puis je sais que vous ne pouvez pas intervenir dans chaque location.
Oui, mais Revenu Québec est là avec des inspecteurs. Vous allez me demander combien il y en a, je peux pas vous le dire, parce que les inspecteurs doivent demeurer évidemment très discrets. Mais la résidence principale, Benoît, c'est là que vous recevez votre rapport d'impôt, c'est là que vous recevez votre permis de conduire, donc il est aisément, très facile pour Revenu Québec de pincer ceux qui ne sont pas enregistrés, qui prélèvent pas la taxe de vente du Québec et qui prélèvent pas non plus la taxe sur l'hébergement.
Ouais.
Qui sont obligés de faire maintenant pour répondre à une demande des hôteliers. Vous en avez fait référence au début, là.
Est-ce qu'on a une image claire, là, en ce qui a trait au tourisme, là, ceux qui débarquent, par exemple, à Montréal?
Oui. Quel type d'hébergement?
Quel type,
Ben, c'est intéressant. Il y a une étude qui a été faite. Pour les Américains, on est à peu près à 80-quelques% qui vont dans les grandes chaînes hôtelières.
OK.
Qui décident de choisir les grandes chaînes hôtelières. Notre marché outre-mer principal, c'est la France. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent étudier à Montréal. Donc, ces gens-là, souvent, vont vivre avec leur enfant ou vont faire de la location plus long terme. Ils décident de passer un bon moment avec leur enfant, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais principalement, 80% des touristes qui, hors Québec, là, qui choisissent la destination du Québec, vont dans les grandes chaînes hôtelières.
Encore?
Oui.
Parfait.
Oui.
Bon, ben on est resté dans le sujet.
C'est assez bon. Je vous félicite.
Quand même. Oui. Puis vous avez fait vos devoirs. Bravo.
Merci.
Hein? Puis un autre 4 ans?
Oui.
Qu'est-ce qu'il annonce François Legault après-midi?
On va l'écouter avec beaucoup d'intérêt, vous et moi. J'espère que vous allez diffuser en direct, Benoît, qu'on puisse avoir les grands moments de discours.
Faites-vous-en pas, ça va. Il va y avoir des commentaires, des analyses. Oui. Faites-vous-en pas, c'est prévu à l'horaire.
Je vous
Caroline Proulx, merci,
salut.
Ministre du Tourisme.
À la prochaine. Benoît. Bientôt.